Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Collectivité et logiciel libre avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-du-Riage. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Noémie Berger sur l'invalidation du Privacy Shield et aussi la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Césamat et les ressources pédagogiques libres. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 22 septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick.
Bonjour Fred et bonjour aux auditeurs.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le site web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on va commencer par un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission, mais vous pouvez proposer les réponses soit sur le salon web de la radio, sur le chat, soit sur les réseaux sociaux. Donc la question est, le groupe de travail sensibilisation de l'April se réunit actuellement à distance chaque jeudi soir. Quel outil libre de visioconférence ce groupe utilise? On a déjà parlé de cet outil dans Libre à vous, et on a même déjà fait l'interview de son auteur. Je vous donnerai la réponse en cours d'émission, n'hésitez pas à proposer des réponses. Tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique « In Code We Trust », dans le code « Nous croyons » de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'invalidation du Privacy Shield. En français, on va appeler ça le bouclier de protection des données Europe-États-Unis. Donc je te laisse nous expliquer l'enjeu de cette invalidation.
Bonjour à tous. Donc effectivement, en droit des données, l'été a été marqué par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, du 16 juillet 2020, qui a invalidé le Privacy Shield. Pour rappel, la CJUE, c'est la juridiction européenne qui veille à l'application du droit de l'Union européenne. Et dans cette chronique, je propose de vous apporter un éclairage sur le concept de transfert de données, revenir sur l'objet du Privacy Shield, d'analyser la décision de la CJUE et ses conséquences. Alors, petit rappel préliminaire sur les transferts de données. Il faut comprendre ce qu'est un transfert de données pour comprendre pourquoi la CJUE a invalidé le Privacy Shield. Un transfert de données, selon la CNIL, c'est toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers à l'Union européenne. Donc le transfert, il implique trois éléments. Premièrement, des données à caractère personnel. Deuxièmement, une partie émettrice dans l'Union européenne. Troisièmement, une partie réceptrice hors de l'Union européenne. On comprend bien qu'aujourd'hui, avec l'importance des flux de la mondialisation, les transferts de données sont quasi omniprésents. Dans l'Union européenne, les transferts de données à caractère personnel sont encadrés par le droit de l'Union européenne. Pour transférer des données, il faut respecter les règles de l'Union européenne. Donc si le transfert se fait d'un pays membre de l'Union européenne vers un autre pays membre de l'Union européenne, on va considérer que les règles sont communes. Alors quelles sont ces règles? Eh bien, avant 2018, on avait une directive de 1995 qui s'appliquait. Et depuis le 25 mai 2018, eh bien, c'est le règlement général sur la protection des données qui s'applique et qui vise à encadrer les transferts de données. Le principe, c'est l'interdiction des transferts de données à caractère personnel vers des États non membres de l'Union européenne. Pourquoi cette interdiction? L'objectif, c'est d'empêcher que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ne soit compromis. Et qu'est-ce qui va permettre de garantir ce niveau de protection? Eh bien, s'il y a une interdiction de principe, dans les faits, on sait très bien qu'il existe des transferts de données hors de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le RGPD prévoit un certain nombre de mécanismes qui viennent normalement garantir le fait que les règles du droit des données sont respectées. On a donc différents mécanismes, outils, dispositifs qui sont là pour garantir le respect du droit de l'Union européenne dans les transferts. Ces différents mécanismes, outils, peuvent être une décision d'adéquation de la Commission européenne qui concerne certains pays qui assurent un niveau de protection adéquat. Donc là, c'est la Commission européenne qui va, dans une décision motivée, indiquer quels sont les pays qui assurent un niveau de protection adéquat, et dans ce cas-là, il peut y avoir un transfert vers ces pays. On peut aussi avoir des outils qu'on appelle les clauses contractuelles, qui sont en fait dans le cadre d'une relation où on a un importateur et un exportateur qui sont dans l'un dans l'Union européenne et l'autre en dehors de l'Union européenne, eh bien, ils sont unis par un contrat qui va les lier. Et dans ce contrat, on a ces clauses contractuelles qui viennent encadrer strictement le transfert. On a également des transferts qui peuvent être fondés sur un mécanisme de certification ou un code de conduite, qui sont des documents qui sont approuvés par les autorités de contrôle, dans lesquels on a des engagements d'appliquer des garanties appropriées. On a également un mécanisme qui s'appelle les règles internes d'entreprise, les BCR, qui constituent en fait une politique de protection des données intra-groupe lorsqu'il y a des sociétés qui sont dans des cas dans l'Union européenne avec d'autres sociétés qui sont hors de l'Union européenne. Et enfin, nous avons la possibilité des transferts qui sont autorisés par un texte juridique. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le RGPD prévoit des dérogations à cette interdiction de principe du transfert, qui sont des exceptions très strictes, qui ne sont pas prévues par les mécanismes que je viens de vous présenter, mais qui permettent de contourner l'interdiction dans des cas très exceptionnels. Donc c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que pour comprendre le privacy shield, vous aviez besoin de comprendre qu'on vous expose les différents mécanismes, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans les exceptions qui sont quand même très très spécifiques. Le privacy shield, comment a-t-il vu le jour et pourquoi ? Lorsque j'expliquais que certains transferts sont fondés sur une décision d'adéquation de la Commission européenne, eh bien le Privacy Shield il répond à ce critère. C'est-à-dire qu'il va concerner les relations entre les États-Unis et l'Europe. Donc pour tous les transferts qui avaient lieu entre les États-Unis et l'Europe, on visait le Privacy Shield, le bouclier de protection des données. Avant cela, historiquement, le département du commerce américain, en concertation avec la Commission européenne, avait instauré un accord qu'on appelait le Safe Harbor. Eh bien, ce Safe Harbor, il a été invalidé déjà en 2015 par la CJUE. Et à la suite de cette invalidation, il a fallu prendre une autre décision d'adéquation pour permettre de nouveau les transferts de l'Union européenne vers les États-Unis. Et c'est pour cela que la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis ont préparé ce nouvel accord qui était le Privacy Shield, qui est un mécanisme qui a été mis en place le 12 juillet 2016, qui en fait permet de garantir aux citoyens de l'Union européenne un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne lorsque leurs données sont communiquées vers des entreprises aux États-Unis. Comment fonctionne le Privacy Shield ? Eh bien, c'était un mécanisme d'auto-certification. Les entreprises américaines se déclaraient conformes à ces principes. Elles étaient donc inscrites sur une liste qu'on pouvait d'ailleurs toujours consulter sur Internet. Et on y voyait donc la liste des entreprises qui étaient certifiées. Les États-Unis avaient assuré à la Commission européenne qu'ils allaient procéder à des mesures de contrôle efficaces pour contrôler les entreprises américaines et éventuellement sanctionner en cas de non-respect de la réglementation de l'Union européenne, pouvant même aller jusqu'à la suppression de leur nom dans la liste. La différence avec le Safe Harbor, c'est que le Privacy Shield était censé apporter plus de garanties, plus de reconnaissance des droits individuels pour les citoyens. Il devait également empêcher, restreindre l'accès du gouvernement américain aux données à caractère personnel. Et on a eu, au moment du Privacy Shield, de nombreux acteurs qui se sont insurgés contre cet accord, pour dire qu'en fait, il ne garantissait pas, il n'était pas suffisamment protecteur au regard du droit de l'Union européenne. Et donc, un litige a été porté devant la CJUE, qui a opposé en fait un avocat qui était l'avocat qui avait déjà fait tomber le Safe Harbor, Maximilien Schrems, contre Facebook. Et à la suite donc, de ce litige porté devant la CJUE, eh bien, la CJUE a rendu cette décision en juillet 2016, où elle annule purement et simplement la décision de la Commission européenne de reconnaître une protection adéquate au Privacy Shield. Donc, pour faire fonder cet accord, la CJUE se fonde sur deux raisons principales. Le premier, c'est que les services de renseignement américains opèrent une surveillance qui leur permet, pour des raisons de sécurité nationale et d'intérêt public, d'accéder aux données qui sont transférées depuis l'Union européenne sans limitation d'accès. Et deuxième raison qui justifie pour la CJUE le fait que le Privacy Shield ne réponde pas à la réglementation européenne, c'est qu'il n'offre pas suffisamment de droits de recours effectifs aux personnes qu'il est censé protéger. Et donc, considérant que le Privacy Shield ne répond pas à ses exigences, la CJUE le rend invalide. La conséquence, c'est que le Privacy Shield aujourd'hui ne peut plus servir de fondement à un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc, il tombe sans préavis. Application à effet immédiat. Les conséquences, eh bien, c'est que les transferts de données à caractère personnel à destination d'entreprises américaines qui étaient fondées sur le Privacy Shield sont désormais illicites et doivent être suspendus. Donc la décision est quand même très importante, elle a vraiment des impacts forts, donc, ce qui signifie que les transferts peuvent se faire, mais il faut un autre mécanisme que le Privacy Shield pour les justifier. Donc non, il n'est pas impossible aujourd'hui de transférer des données vers les États-Unis, mais c'est sous condition. Il faut donc faire une analyse au cas par cas pour déterminer si les garanties qui sont proposées par un importateur implanté dans un pays tiers tel que l'Union européenne, eh bien ces garanties soient suffisantes. On s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir invalidé le Privacy Shield, ça constitue un vide juridique. Non, puisque dans la mesure où il existe d'autres mécanismes que je vous ai présentés en début de la chronique, en réalité, il est tout à fait possible de trouver un autre mécanisme à appliquer. Alors évidemment, la doctrine va se construire au fur et à mesure et on risque d'avoir, alors peut-être pourquoi pas, une nouvelle décision d'adéquation, en tout cas pour les transferts vers les États-Unis, mais le Comité européen de la protection des données, qui est l'organe qui garantit l'application cohérente du RGPD dans tous les pays de l'Union européenne, est en train de travailler sur des explications, des pratiques pour pouvoir remédier à cette invalidation du Privacy Shield. Et d'ores et déjà, le Comité européen a indiqué que les sociétés qui souhaitaient faire de tels transferts pouvaient mettre en place les clauses contractuelles, donc qui sont un des outils qui est prévu par le RGPD. Et il suffit pour cela d'appliquer en fait les clauses contractuelles dans les contrats qu'on conclut avec un sous-traitant, par exemple, qui sera à l'étranger. Donc en pratique, pour les sociétés qui sont concernées, qu'elles soient des sociétés sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est évidemment lister les flux, lister ces sous-traitants aussi pour voir dans quelles conditions ils vont transférer les données à caractère personnel, regarder les contrats. S'il y a des transferts vers les États-Unis, tout de suite, sans attendre, négocier un avenant ou intégrer dans les contrats qu'on a en cours des clauses contractuelles types. Si c'est un transfert vers un pays autre que les États-Unis, vérifier que la législation de ce pays elle est suffisamment conforme aux exigences de la CJUE au niveau de protection des données personnelles attendues. Donc voilà un petit peu la présentation de cette décision qui a quand même fait beaucoup qui a beaucoup fait parler d'elle parce que c'est en pratique dans le droit des données, les transferts de données ils sont omniprésents comme je l'expliquais et c'est vrai que eh bien aujourd'hui il faut trouver des moyens pour substituer la réglementation et c'est ainsi que on risque de voir d'autres évolutions arriver dans les prochains mois. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement, il y a un webinaire qui est organisé entre Dune Academy et Doctrine, un webinaire gratuit qui portera sur le sujet qui est organisé demain. Voilà, c'est une petite auto-promo.
Bah écoute, tu as bien raison, on mettra les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm. Bah, de toute façon, comme tu le dis, on va suivre ce dossier avec intérêt, parce qu'il va y avoir sans doute d'autres décisions, puis il y a aussi les réactions des GAFAM. Je crois que Facebook a commencé notamment avec la CNIL irlandaise, hein, qui a utilisé cette décision pour leur dire d'arrêter d'envoyer des données des Européens et Européennes aux USA, donc un sujet chaud et qu'on va suivre sur la durée. Écoute, Noémie, je te remercie et on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
Parfait, merci. Bon après-midi à tous.
Bonne journée. On va faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site Au bout du fil, auboutdufil.com, va nous faire voyager au Japon grâce à l'artiste Peritune. On va donc écouter le premier morceau qui s'appelle Harvest 6 par Peritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Harvest 6 par Peritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de radiocausecommune.fm. Et vous trouvez une présentation de cette artiste japonaise sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous poursuivons en effet nos retours d'expérience avec aujourd'hui Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage en Isère, en charge entre autres du numérique. On va vérifier que Claudine est avec nous. Est-ce que tu es bien là?
Oui, bonjour.
Bonjour Claudine. Alors n'hésitez pas, si vous avez souhaité participer à cet échange, à vous connecter sur le salon web de l'émission. Vous allez sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon web consacré à l'émission. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous donc Claudine Chassagne, qui va nous parler un petit peu du retour d'expérience de la commune de Saint-Martin-d'Uriage concernant le logiciel libre. Mais déjà une première question personnelle, une petite présentation de ton parcours et de ton arrivée en fait à la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Oui, donc alors moi je suis ingénieure informatique, informaticienne de formation, hein, mais c'est une formation qui, je suis sortie de l'école en 1976, donc autant dire que je suis un dinosaure de l'informatique. Et ensuite, comme métier, j'ai été directrice des systèmes d'information à l'Université de Grenoble et puis après au Conseil général de l'Isère. Et en même temps aussi professeure associée à l'université et formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, que connaissent bien les agents des collectivités. Voilà, et depuis 2014, je suis élue en charge, alors entre autres, du numérique sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Alors la commune de Saint-Martin-d'Uriage, donc c'est en Isère. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà pour qu'on sache si c'est une grande commune, une petite commune, en termes donc d'habitants et d'habitantes, et puis de personnes qui travaillent au sein de la collectivité?
Oui, alors bon, c'est une commune qui est c'est une commune périurbaine de l'agglomération grenobloise. Elle est dans le bassin grenoblois, bien qu'elle n'appartienne pas, elle ne fasse pas partie de la métropole grenobloise. Elle a un peu son identité Grésivaudan, communauté de communes du Grésivaudan, qui est un peu différente. Donc c'est une commune qui a 5600 habitants. C'est une station thermale et touristique, hein, tout le monde connaît les crèmes Uriage, et bien elles sont fabriquées à partir de l'eau d'Uriage en fait, et qui permet d'alimenter la station thermale. Et c'est une commune de montagne, c'est-à-dire elle s'étend entre 300 et 1200 mètres, hein, donc elle monte assez haut en dessous de Champs-Rousses. Pour gérer les services de la commune, donc la mairie comporte à peu près 150 agents, ce qui veut dire à peu près 120 temps plein, hein, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel dans les écoles, bien sûr. Et donc pour gérer l'informatique, et bien il y a un responsable des systèmes d'information et qui est aidé actuellement d'un apprenti en licence informatique.
D'accord, donc ça nous positionne très bien la commune et ça va nous permettre de comparer par rapport à d'autres expériences qu'on a pu faire par exemple avec la ville de Paris ou même avec la ville de Grenoble. Alors comme tu l'as dit, tu es en charge notamment du numérique, tu es adjointe au maire donc depuis 2014, hein, les élections municipales, donc pas les dernières, celles d'avant, 2014, et dans lequel en fait, dès les élections, il y avait dans le programme politique de l'équipe candidate cette priorité au logiciel libre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour quelles raisons finalement il y avait cet engagement, ce projet de migration vers les logiciels libres, cette priorité aux logiciels libres, et quels sont les enjeux qui ont motivé ce choix pour l'équipe candidate qui ensuite a été élue?
Oui, alors effectivement, c'est moi qui suis arrivée un peu avec cette idée des logiciels libres, puisque ça fait longtemps que je suis sensibilisée, hein, au niveau du Conseil général. Donc j'avais déjà mis en place une stratégie, j'étais alors directrice des systèmes d'information, donc du côté agent. Pour moi, c'était un enjeu politique, hein, qu'il fallait porter, donc qui a été inscrit dans le programme. Donc il a fallu convaincre les élus, mais ça a été relativement facile, de l'équipe municipale, et le maire était tout à fait aussi favorable. Donc on a inscrit cette politique de recours au logiciel libre dans le programme. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, c'était aussi au moment où la région Rhône-Alpes avait des élus qui s'étaient beaucoup mobilisés sur le logiciel libre. Et donc on s'est inspiré un peu de ce qu'ils avaient fait au niveau délibération.
Oui, c'était une délibération qui avait été faite effectivement notamment par Jean-Marie Chausson, si je me souviens
voilà,
bien.
Voilà, tout à fait. Jean-Marie D'accord. qui avait fait ça. Et donc on s'est complètement inspiré de cette délibération pour ensuite démarrer une fois que nous avons été élus en 2014.
D'accord. Et donc, quels ont été les points forts, les enjeux mis en avant dans ta conviction par rapport à tes collègues de l'équipe candidate? Et donc, pour quelles raisons, finalement, cet engagement en faveur du logiciel libre?
Alors, en 2014, parce que on viendra après en 2020, c'était un petit peu différent en 2020, mais en 2014, c'était vraiment un enjeu politique fort d'indépendance technologique, c'est-à-dire ne plus être tributaire du monopole qui était exercé par ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les acteurs économiques qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, c'était pour acquérir une indépendance technologique vis-à-vis de ces acteurs, alors à la fois par rapport à la protection des données et au risque d'exploitation des données, et à la fois par rapport aussi notre système d'information, parce que on était quand même pieds et poings liés avec Microsoft. Donc il y avait cette idée, cet enjeu politique très fort au départ, de reprendre la maîtrise de nos logiciels et de nos données. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique, donc c'était un petit peu ça au départ, c'était vraiment de pouvoir être maître de nos logiciels et de nos données, de ne pas subir justement les contraintes de ces acteurs.
Et donc, et les contraintes, les choix que finalement ces acteurs vous imposent au détriment de vos propres choix politiques ou du choix de l'intérêt général en fait, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Tout à fait, et on voit bien un petit peu les dérives aujourd'hui, parce que bah, typiquement par le marché là, de l'éducation nationale, qui est obligé justement de poursuivre dans cette lancée par rapport à l'acteur actuel qui est Microsoft, parce que c'est très très difficile de reprendre la main, et donc voilà, c'est une dépendance qui a pas mal d'impact au niveau politique, au niveau technique, au niveau sociétal pour moi.
Oui, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et on renverra notamment les auditeurs et auditrices au cas de l'éducation nationale et aussi au cas encore plus emblématique du ministère de la Défense avec son fameux contrat Open Bar Microsoft Défense qui a été signé, si je me souviens bien, en 2009 et qui est toujours actif, qui a renouvelé tous les 4 ans. Et parce que le ministère de la Défense n'a pas le temps de se sortir de ce piège Microsoft. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, donc souveraineté, reprendre la maîtrise des logiciels et des données. Il y a aussi un point sans doute qui a joué, c'est la partie peut-être mutualisation, parce que dans le logiciel libre et les collectivités, souvent on apporte l'aspect économique sous la forme de la mutualisation entre communes. Donc ça, est-ce que ça a été un argument que tu as mis en avant, que l'équipe candidate a mis en avant?
Alors oui, tout à fait. C'est le deuxième argument fort parce que et qui a un impact économique financier assez fort sur les collectivités, hein, c'est que il y a un peu plus de 36 000 communes en France qui ont les mêmes missions et qui vont séparément contractualiser avec leurs prestataires pour gérer ces missions. Je prends par exemple comme exemple le logiciel de gestion des cimetières. Toutes les communes sont confrontées à cette mission de gérer le cimetière. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un logiciel libre, hein, développé pour les collectivités, qui peut être mutualisé. Et pour nous, ça, c'était important de nous inscrire dans ce mouvement-là. Alors, soit de pouvoir prendre justement des logiciels libres qui sont aujourd'hui développés pour ces missions, soit aussi d'essayer de se regrouper avec d'autres communes pour développer un logiciel qui corresponde à ces missions ou pour faire ensemble quelque chose qui est inutile maintenant et qu'on ne peut plus faire tout seul, quoi. Voilà.
Oui, cet aspect mutualisation et effectivement, plutôt que de chacun dépenser dans son coin quelques milliers d'euros dans des solutions privatrices, se regrouper pour financer du développement du logiciel libre. Et donc, le logiciel dont tu parlais, c'est de mémoire, il doit s'appeler Open Cimetière et il fait partie de l'ensemble des logiciels libres Open Mairie, dans lequel il y a, si je me souviens, alors je ne me souviens plus du nombre de structures, mais il y a à la fois des collectivités, des entreprises qui développent du logiciel libre pour développer des logiciels libres pour les collectivités territoriales.
Voilà, pour effectuer, pour assurer les missions des collectivités. Ça peut être la gestion des élections, la gestion des cimetières, voilà. Et donc, les collectivités peuvent prendre ces logiciels, puisqu'ils sont libres, les choisir, et puis après, éventuellement, soit mettre en concurrence un prestataire pour la maintenance, soit le faire en régie, voilà.
D'accord. Ce qu'on appelle en régie, c'est qu'en fait, une société externe délègue du personnel dans la collectivité à temps plein pendant plusieurs mois pour travailler sur le système d'information, c'est bien ça?
Alors ça, c'est dans les grandes collectivités.
D'accord.
Dans les petites collectivités, ce qu'on appelle en régie, en général, c'est quand c'est un agent et c'est lui qui le fait, quoi.
Ah d'accord, ok, alors ça n'a rien à voir. Donc j'ai bien fait de poser la question.
Mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai que y a deux univers un peu différents entre les grandes collectivités et les petites collectivités.
Oui, tout à fait. Dans la préparation, tu m'as parlé aussi d'un autre argument qui est l'aspect sociétal, la coopération et la réutilisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet enjeu?
Alors oui, parce que en fait, jusque-là, on gère des projets d'une façon assez classique, c'est-à-dire on définit les besoins, on passe en marché, et puis après, ça correspond plus ou moins et on adapte sur le terrain. Et là, ce que nous souhaitions faire justement, et que les logiciels libres nous permettent de le faire, c'est d'associer d'autres acteurs, par exemple à la définition des besoins. Je prends par exemple le portail famille pour les usagers. À ce moment-là, c'est travailler avec les usagers pour définir les besoins avec eux, mais travailler aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être des experts ou des entreprises, et pour essayer de définir des besoins et de coller au mieux à ce qu'on veut faire, et après, éventuellement, le faire développer. Et ça, c'est les logiciels libres nous permettent de le faire. Bon, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, on a ce projet, hein, effectivement, de travailler comme ça, mais ça implique de gros changements, hein, au niveau des agents, puis au niveau des élus. Et donc là, c'est un travail un petit peu de longue haleine pour essayer de mettre tout ça en place. Mais c'est effectivement cet enjeu de travailler avec des nouvelles méthodes qu'on appelle l'innovation ouverte, et qui nous permettent de mettre des projets au point petit à petit, quoi, et avec les usagers et avec d'autres acteurs.
Sous une forme,
ou avec d'autres communes.
Sous une forme, quand tu parles petit à petit, sous une forme d'agilité, comme on a pu déjà l'évoquer.
Voilà, tout à fait, avec des méthodes agiles. Tout à fait, c'est méthodes agiles et innovation ouverte, c'est-à-dire on associe d'autres acteurs et on a des méthodes à petits pas qui nous permettent d'avancer, de construire progressivement, voilà, les besoins.
En fait, c'est pour impliquer les personnes utilisatrices de vos logiciels ou en tout cas de vos solutions pour permettre que, finalement qu'elles correspondent à ce qui est vraiment attendu, plutôt que de
Absolument.
Livrer quelque chose qui finalement ne correspond pas à ce qui est attendu parce qu'on n'a pas pris en compte les besoins des habitants et des habitantes, c'est bien ça?
Tout à fait.
D'accord.
C'est exactement ça.
Alors sur l'agilité, je renvoie aussi à un podcast de l'émission Libre à vous. Je ne sais plus quelle date c'était, mais vous allez sur causecommune.fm et vous trouverez ça avec Alexis Monville. Donc on a parlé donc politique, économique avec la mutualisation, sociétale, mais souvent aussi il y a une raison qui est mise en avant, c'est la raison technique. Et on parle souvent de termes comme l'interopérabilité, les formats ouverts. Est-ce que ça a été un critère de choix?
Ah ben complètement, parce que justement, ce qu'on cherchait à faire, c'était de construire un système d'information qui ne soit pas une boîte noire, qui ne soit pas constitué de boîtes noires, mais qui soit constitué de modules qui puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'éviter ce qu'on appelle le plat de spaghetti, c'est-à-dire qu'on met des boîtes noires et après, lorsqu'on veut les faire communiquer, on développe des interfaces entre ces boîtes noires et finalement, on arrive à des tas d'interfaces et à un plat de spaghetti. Et donc, du coup, ce qu'on cherchait à faire, c'était effectivement d'avoir un système d'information qui soit construit par module, qui puisse communiquer entre eux. Et qui dit communiquer entre eux, disent qu'ils parlent le même langage, c'est-à-dire qu'ils répondent au format ouvert, c'est-à-dire ce qui peut permettre de communiquer entre eux. Hein, je prends toujours l'exemple des prises électriques. C'était aujourd'hui, les prises électriques, on peut aller n'importe où et on branche sa prise et ça marche. Donc on parle le même langage. Et dans le système d'information, c'était un peu ce qu'on cherchait à faire. Et pour ça, on avait besoin de reposer sur de la normalisation et des formats ouverts. Et c'est effectivement l'enjeu technique qui a été assez important avec l'enjeu politique au départ, c'est-à-dire d'essayer d'urbaniser ce système d'information. Voilà.
D'accord. Donc on a bien compris ces quatre grands enjeux, hein, politique, économique, mutualisation, sociétal et puis technique. Donc ça, c'est en 2014, donc avec une délibération qui indique le recours à la priorité au logiciel libre. Donc est-ce qu'il y a eu un soutien de l'équipe candidate? Visiblement oui, vu que c'était dans la feuille de route quelque part de l'équipe candidate. Mais est-ce qu'au niveau des gens qui travaillaient pour la collectivité, donc tu as parlé tout à l'heure du directeur des systèmes d'information, et on peut aussi penser au directeur, alors je ne sais pas si vous avez un directeur général ou quelque chose comme ça, est-ce qu'au niveau des gens qui travaillent dans la collectivité, comment ça a été accueilli cette annonce de « on va migrer progressivement vers le logiciel libre » ?
Alors d'abord, le technicien qui était en place avait déjà mis en place des petits logiciels libres. Souvent c'est le cas dans les collectivités, dans les petites communes, il y a des petits bouts de logiciels libres qui sont un peu la volonté du technicien informatique en fait. Donc nous on était dans ce cas-là, sauf que ce technicien est parti peu de temps après parce que justement il en avait assez de pas avoir de soutien politique. Donc il est parti au mauvais moment, mais tant pis. Et donc on a recruté un technicien donc, qui est devenu notre RSI, qui ne connaissait rien du tout du logiciel.
RSI, c'est quoi RSI ?
Et qui a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qui s'est impliqué complètement et puis qui s'est investi là-dedans et qui est devenu vraiment une force de proposition au niveau technique. Voilà, donc et pourtant il n'y connaissait rien au départ. Et pareil pour la Direction Générale des Services. C'est pareil, il a soutenu, alors là aussi c'est pareil, on a eu d'abord une DGS qui soutenait le projet, puis après qui est parti, un DGS qui est arrivé et qui lui aussi a soutenu le projet. Et ça c'est vraiment important, je pense que je dis toujours que c'est un tabouret à 3 pieds ou à 4 pieds, ça dépend l'importance de la collectivité, mais ce qui est important c'est d'avoir un élu qui porte le programme et de préférence un élu soutenu par le maire, le DGS et le DSI ou le RSI. Il faut vraiment qu'il y ait ces trois soutiens pour que ça fonctionne dans le temps et dans la durée et que ça s'essouffle pas. Parce que souvent on a des techniciens, comme je le disais, mais souvent ça s'essouffle parce que c'est pas relayé par l'administration.
D'accord, on va rappeler que DGS, donc la Direction Générale des Services, et RSI, je suppose que c'est responsable du système d'information ?
Oui.
D'accord.
Nous, on appelle RSI parce que mais c'est un DSI,
d'accord.
Mais sauf qu'il est tout seul.
Voilà, donc c'est pour ça. Non, mais je comprends qu'effectivement, diriger une structure où il est tout seul, bon, des fois, c'est compliqué de se diriger tout seul. Mais bon, mais c'est important de noter que même quand on a une petite structure, bah, finalement, au niveau informatique, une seule personne, comme tu l'as dit, aidée par un apprenti, on peut faire un plan de migration vers le logiciel libre, comme on va le voir ensuite dans les étapes. Donc toujours bon, 2014 en tout cas au début, tout à l'heure tu as parlé de mutualisation entre communes, quand on parle de mutualisation dans les collectivités logiciels libres, il y a forcément le nom d'une association qui arrive sur la table, c'est l'association Adulacte, donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, adulacte.org. Et donc, est-ce que l'adhésion de Saint-Martin-d'Uriage à l'Adulacte a été immédiate? Et si oui, pour quelles raisons? Voilà, où s'en est les relations justement entre la commune et l'Adulacte?
Alors, l'Adulacte, alors je suis arrivée moi aussi avec cette connaissance de l'Adulacte, parce que l'Adulacte existe depuis 2003, et donc moi j'ai participé dès le départ, quand j'étais à ce moment-là au Conseil Général, j'ai participé dès le départ au Conseil d'Administration. Donc c'était une idée forte de se dire qu'il y avait une association qui aidait les collectivités, et donc forcément il fallait y aller. Et donc c'est dans la délibération politique, la délibération cadre, qui a fixé le recours au logiciel libre et qui en même temps a préconisé, enfin a fait voter l'adhésion de la commune à cette association, donc fin 2014, et en même temps a mis en place aussi un schéma directeur des systèmes d'information. C'est-à-dire que ces trois aspects-là, on rejoignait tout ce qui était politique, accompagnement et puis technique, stratégie.
D'accord. Alors, on reviendra sur l'Adulacte tout à l'heure quand on parlera du label territoire numérique libre, parce que c'est dans l'actualité, mais ça sera plutôt vers la fin. Donc là, on a vu donc, dans cette première partie de notre échange le début, les raisons, la décision politique de priorité au logiciel libre, les principaux enjeux pour lesquels c'était. Mais quand on prend une telle décision, forcément, à un moment, on nous dit « Attendez, ça ne va pas être si simple que ça, on va parler de problèmes ou de freins ». Donc, quels ont été les freins qui ont été invoqués ou les points de vigilance qui ont été invoqués, soit par l'aspect technique, soit par l'aspect politique, pour cette migration vers le logiciel libre ?
Alors, ils ont été invoqués à ce moment-là, mais ils le sont toujours. Ils sont toujours, les freins sont toujours très prégnants et puis ils reviennent très très souvent, hein, parce que c'est un combat de tous les instants et puis dans la durée pour vraiment instaurer tout ça. Le premier frein, alors d'abord il faut tendre le cou à une idée. Quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je choisis le livre parce que le livre, c'est gratuit. Et ça, vraiment, on s'inscrit en faux depuis le début, hein, au niveau de la DULAC, puis je pense au niveau de toutes les associations aussi. Parce que le livre, ça a un coût. Ça a le coût au moins du premier développement. Ensuite, bon, on peut mutualiser. Et puis, ça a un coût pour les communes ou pour les organisations, enfin pour les entreprises qui vont y aller. C'est que c'est le coût du changement. Le changement est extrêmement important entre une base installée, qui est souvent une base propriétaire, pour passer justement à du libre avec c'est un petit peu différent. Et puis, donc, c'est ce changement à la fois au niveau technique, mais aussi auprès des utilisateurs, puisqu'il faut conduire ce changement auprès des utilisateurs, ce changement a un coût. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de le faire et d'investir dans ce changement, et après de partir et de poursuivre dans la durée. Mais ce changement a un coût et il ne faut pas le nier. Donc ça, c'était la première idée. Qui revient toujours et dans laquelle on s'inscrit en faux.
D'accord.
Alors ensuite, dans les freins, bien sûr, c'est qu'on ne part pas de zéro. Si on partait de zéro, ça serait plus facile, mais là, on part de quelque chose. Il y a déjà des logiciels, il y a des boîtes noires, il y a des habitudes, il y a des usages, et ça fonctionne tant bien que mal, mais ça fonctionne. Et donc, ce qu'il faut étudier, c'est planifier ce qu'on va renouveler ou ce qu'on va mettre en place et qui va être du logiciel libre. Et ça, c'est plus facile à le faire sur les nouveaux logiciels à installer. C'est plus facile. Bon, je prends l'exemple, par exemple, on n'avait pas de logiciel de gestion des élections. Tout de suite, on a choisi OpenElect, donc de la suite OpenMairie, parce que ça nous paraissait évident et ça nous paraissait vraiment un endroit dans lequel on pouvait commencer à mettre en place du libre. Aujourd'hui, les agents qui utilisent OpenElect sont très, très, très contents. Donc voilà, ça c'est un premier frein, c'est le système d'information qui existe. Il y a un deuxième frein, c'est la commande publique qui est toujours invoquée, c'est-à-dire oui mais c'est compliqué dans la commande publique, comment on peut, si on définit des besoins, ça sera forcément en faveur, enfin ça sera forcément le logiciel propriétaire qui sera gagnant et on n'arrive pas à faire passer le logiciel libre, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a des façons de définir dans la commande publique le fait qu'on veut du logiciel libre, soit en disant qu'on veut des formats ouverts, on veut se baser sur des formats ouverts, ou alors on veut accéder au code source. Donc aujourd'hui, on sait demander des logiciels libres et on sait les mettre en concurrence avec du logiciel propriétaire. Et puis après, il y a une façon aussi très simple de faire, que nous on a beaucoup utilisé, c'est qu'on choisit un logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a la volonté politique de choisir un logiciel libre et ensuite on met en concurrence le service de maintenance ou d'évolution dont on a besoin. C'est ce qu'on a fait pour OpenElect en fait.
Ça, c'est
voilà. Donc aujourd'hui ça existe et c'est possible.
C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement il y a beaucoup de mécompréhension par rapport à la commande publique. Et on va rappeler par rapport à ce que tu disais, le fait de choisir un logiciel libre et mettre en concurrence après au niveau du service, que le Conseil d'État a validé ça en 2011, de mémoire, je dis ça, sur une décision importante qui concernait un ENT, donc un espace numérique de travail. Et je crois aussi que l'État lui-même a un document qui, alors je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas un guide qui explique en fait comment effectivement faire des appels d'offres ouverts au logiciel libre. Donc on précise, oui, septembre 2011, concernant le ENT Lily. On précise, je rappelle, sur le webchat. Donc vous pouvez venir sur le webchat de la radio ou causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez. Donc ça, voilà, la commande publique peut être utilisée, effectivement. Et on va rappeler qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse qui est fait par l'État, notamment l'éducation nationale, mais tu en parlais tout à l'heure, et également au ministère des Armées. Mais en tout cas, la commande publique peut être un outil parfaitement puissant pour mettre en œuvre une priorité au logiciel libre. Alors, ouais. Justement, comme je suis sur le salon, je vois qu'il y a une petite question, même si on va poursuivre après les freins, mais je vais la poser comme ça immédiatement. Donc, on nous demande, est-ce que l'offre logiciel, service, entreprise du Libre te paraît actuellement suffisante? Et pour compléter la question, donc, quel logiciel ou application manquerait, selon toi, sur le marché actuellement?
Ah, alors, évidemment, sont les logiciels métiers. Hein, dans le système d'information, on a quand même des blocs qui restent propriétaires. Alors, quand je dis les logiciels métiers, c'est le gestion des ressources humaines, gestion des finances. Là, aujourd'hui, ça manque parce que, alors, pour en avoir discuté souvent avec au sein de la DULACT, c'est que en fait, il faut, en termes d'évolution, il faut vraiment suivre la réglementation et c'est très, très contraignant. Et donc, ça, aujourd'hui, les prestataires qui existent sur le marché, qui se partagent le marché, le font très bien. Et c'est compliqué de rentrer enfin, en concurrence et de faire la même chose, quoi. Donc, c'est vraiment les gestion des ressources humaines, gestion des finances. Alors après, il y a des choses, par exemple, comme gestion de l'urbanisme, sur lequel aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a justement OpenADS, hein, toujours de la suite OpenMairie, qui est une alternative crédible, justement, et qui commence à s'installer dans les communes.
On va juste préciser que...
C'est le cas chez nous, parce que chez nous, les gens du service urbanisme ont voulu poursuivre avec leur logiciel, mais il y a des communes, qui j'en connais sur l'Isère, qui ont installé justement ce logiciel de gestion d'urbanisme.
Alors, on peut juste préciser que donc OpenADS, c'est la gestion de l'autorisation du droit des sols. ADS, c'est-à-dire autorisation du droit des sols.
Autorisation du droit des sols.
Oui, voilà, exactement. Donc voilà, je surveille s'il y a d'autres questions et on va donc continuer sur les freins. Je suppose, en tout cas, ça fait partie de la liste, que le besoin de nouvelles compétences est un frein qui est souvent mis en avant et ça doit être encore plus prégnant pour une structure dans la collectivité qui a finalement une seule personne en charge de l'informatique. Alors, donc, est-ce que c'est un vrai frein? Comment vous avez géré ça dans une petite structure qui a une personne en charge de l'informatique?
Alors, quand il n'y a qu'une seule personne en charge de l'informatique, il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées, en fait. Hein. Donc, quand on a besoin d'un logiciel, donc on prenait le schéma classique, définition des besoins, passant le marché, bon, etc. Et c'est l'informaticien qui va piloter ça. L'informaticien, il a une formation qui lui permet d'appréhender ces technologies-là, mais aussi les technologies du libre. Même si maintenant dans les universités, on forme assez peu au libre et on forme plutôt au logiciel propriétaire. Ceci dit, un informaticien pour moi, c'est quelqu'un qui est en veille permanente au niveau technique et qui est capable de se former ou d'appréhender d'autres technologies. Il n'est pas lié à une technologie ou à un système propriétaire. Donc ça, c'est le métier informatique qu'il faut justement concevoir un peu différemment, accompagner certainement hein, le mien, enfin notre RSI, là, Nicolas, il s'est formé tout seul en fait, hein, il s'est par curiosité, il s'est formé, bon voilà. Donc ça c'est pour moi c'est pas un frein. Et en plus, après, il faut s'appuyer sur l'écosystème du libre. L'écosystème du libre, il est quand même très, très riche aujourd'hui. Il y a les associations, donc l'April, la DULACT, bon, etc. Il y a ces communautés qui s'entraident. En fait, c'est quand même un peu le principe du libre. Après, il y a les entreprises du libre. Il y a le Conseil national du logiciel libre. Il y a l'État qui, lui, a pas mal avancé aussi sur des outils comme le SOC, le interministériel des logiciels libres, le SILL. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent pour un technicien qui, justement, doit se former en permanence. Il y a tout ce qu'il faut.
D'accord. Écoute, on va poursuivre cette très intéressante discussion et il y a des commentaires vraiment élogieux sur le salon web de la radio, mais on va faire une petite pause musicale. Donc on va continuer notre voyage au Japon avec un morceau choisi encore une fois par Eric Frodin. Nous allons écouter Enchanté 3 Celesta par Péritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Enchanté 3 Célesta par Péritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage, en Isère. Et nous parlons de la migration de la commune vers le logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous joignez sur le salon. Donc juste avant la pause musicale, avec Claudine, nous parlait d'un certain nombre de freins invoqués lors de l'annonce d'une migration vers le logiciel libre. On va poursuivre ces freins avant de parler un petit peu de stratégie de migration et quelques exemples. L'un des freins dont tu avais commencé un petit peu à parler en tout début d'émission, c'était en fait l'habitude des facilités offertes par les GAFAM, donc ces géants du web, dont il faut arriver à se défaire.
Oui, tout à fait, parce que, alors, c'est tellement ancré, en fait, dans les habitudes de travail, on ne parle pas de traitement de texte, par exemple, on parle de Word. Ce qui est toujours étonnant, parce que, en fait, on peut avoir des logiciels de traitement de texte autres. Et ça, c'est ces habitudes de travail, ce sont les plus difficiles à changer, parce que les agents savent à peu près les utiliser. Je reviendrai là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas bien les utiliser, mais donc ils savent à peu près les utiliser. Par rapport à ce qu'on va leur mettre comme alternative libre, par exemple, ils vont trouver que ils sont en régression, que ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, et que voilà. Ils ont un peu l'impression que c'est le logiciel au rabais. Ça, c'était surtout vrai aussi quand, avant LibreOffice, donc il y a eu la période OpenOffice, il y a une dizaine d'années en arrière, qui était certainement moins mature, et où là, il y a les agents ont véritablement eu l'impression d'une régression. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. LibreOffice est quand même quelque chose de complètement évolué, qui possède les fonctionnalités de base dont ont besoin les agents, qui n'utilisent pas forcément toute la batterie de fonctionnalités offertes par Microsoft. Et donc, le plus difficile, c'est effectivement de convaincre qu'on a des outils qui sont aussi bons maintenant. Et que moyennant une formation, hein, parce qu'il y a quand même des petites différences, ils vont retrouver ces compétences-là. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore bien ancré dans la tête des gens, c'est de se dire « Ah mais moi, je veux pas de ça parce que c'est au rabais ». Alors ça, c'est aussi, par exemple, dans nos écoles, le problème qu'on a avec les enseignants qui ont ces outils depuis longtemps et qui ont du mal et qui sont très réticents à les changer.
D'autant plus qu'ils ont sans doute, ils sont déjà très occupés, ils n'ont pas forcément le temps de se reformer à des nouveaux outils, je suppose.
Complètement, complètement. Et ça, on le comprend. Et puis, ils sont souvent dans l'urgence quand il faut démarrer le matériel, etc., pour leur classe. Donc là, nous, on est en train de travailler vraiment sur le parc informatique des écoles pour essayer justement de trouver le bon compromis.
Et à l'inverse, on en parlait la semaine dernière, je crois, il y a des enseignants qui ont profité notamment de la période de confinement pour s'auto-former à l'usage de logiciels libres, notamment pour les cours, enfin les échanges à distance, les visioconférences, les audioconférences. Mais effectivement, l'école est un sujet en tant que tel qu'on traitera sans doute assez rapidement dans Libre à vous. On va continuer sur les freins. Donc pendant la préparation, tu me parlais aussi de la participation à la communauté. Parce que souvent, effectivement, quand on parle de logiciels libres, on se dit que ce n'est pas uniquement utiliser des logiciels, mais c'est contribuer à une communauté. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc ça, c'est un frein. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît ?
Alors, c'est pas forcément obligatoire, effectivement. Et puis là encore, il y a différents niveaux. En fait, il y a trois profils dans une communauté. Il y a l'utilisateur qui va chercher son logiciel libre, et qui l'utilise couramment sans forcément connaître ce qu'il y a sous le capot. Il y a l'initiateur, c'est celui qui va au niveau d'une commune, par exemple, initier un développement, ou au niveau d'une grande collectivité. On a des grandes collectivités aujourd'hui qui initient des développements et puis qui vont être initiateurs par rapport à ça. Et puis il y a les contributeurs, donc c'est-à-dire celui qui a les connaissances et qui va contribuer justement au développement, à l'évolution du logiciel libre. Donc il y a ces trois profils. On peut très bien comprendre que dans une commune où il n'y a qu'un RSI, on ne va pas forcément être dans le profil initiateur ou contributeur. On peut être dans le profil utilisateur. Mais en fait, moi, je me rends compte que même petit à petit, donc avec le technicien qui s'est formé et puis qui s'est bien approprié ces technologies, eh ben, il contribue en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se développer dans le temps, mais au départ, une commune peut très bien être simplement utilisatrice, comme une commune ou même un particulier, sans forcément participer davantage.
Tout à fait. Mais je suppose, alors, enfin, c'est une question, je suppose que, comme tu as dit tout à l'heure, que tu avais affaire à un vrai informaticien, donc c'est quelqu'un donc, qui se forme tout au long de sa vie, je suppose que lui, ça doit lui faire quelque part plaisir de se dire qu'il peut contribuer, parce que souvent dans l'échelle privateur, en fait, on est contraint par les choix de l'éditeur, par les bugs, etc., alors que dans le logiciel libre, justement, il y a cette possibilité de contribution. Donc quelque part, je pense que c'est une question, est-ce que lui, ça lui apporte quelque chose d'un point de vue, je dirais, professionnel et même personnel, cette possibilité de contribution?
Ah oui, tout à fait. Hein. Je pense que je crois que cette démarche lui a bien plu. Hein. Enfin, lui qui ne la connaissait pas forcément au départ, je pense que ça lui a bien plu en termes de curiosité informatique de ce qu'il y a sous le capot et puis de pouvoir contribuer. Donc voilà, c'est tout à fait positif pour lui, je pense. Oui.
D'accord. Alors, dernier frein que tu as évoqué pendant la préparation, c'est l'expression « le libre, c'est pour les geeks ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Et oui, parce que c'est vrai que le libre, alors peut-être que là aussi, nous, au niveau des associations, il faut quand même qu'on travaille bien là-dessus, parce que il reste, enfin, moi je vois même au niveau de la DULAC, souvent je le dis au sein de la DULAC, c'est que quelquefois, on parle à des initiés. Et du coup, ça écarte un petit peu les volontés d'aller dans ce modèle-là, qui est un modèle pas du tout, enfin pas forcément technologique, mais qui est un modèle politique pour moi. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un bout de chemin à la fois du côté des associations pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde dans ce modèle-là. Et puis après, bon, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de vulgarisation qui a été faite, hein, mais je pense à l'April, à toutes ces associations où il y a énormément d'informations sur le site pour tout le monde. Et puis il y a des accompagnements même pour les associations, pour les habitants, je pense aux ce qu'on appelle les chatons, hein, les hébergeurs alternatifs. Toutes les associations comme Colibri, etc., qui essayent justement, qui font tout ce travail d'accompagnement. Le CNFPT, donc le Centre National pour la Fonction Publique Territoriale, a maintenant inscrit des formations en logiciel libre. Il y a le label, justement, Territoire Numérique Libre, pour faire connaître les communes qui se sont lancées et puis qui mettent petit à petit ce mouvement en marche. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est plus réservé qu'aux geeks, je pense, qui est en train de se démocratiser, qui va bien avec le changement de comportement qu'on appelle un peu nos voeux par rapport à la transition actuellement. Donc je trouve qu'on est dans une période tout à fait propice pour aller plus loin. Mais c'est vrai que ça reste encore, alors au niveau professionnel, hein, dans les entreprises ou dans les communes, ça reste encore quand même quelque chose comme réservé aux geeks, quoi. Et voilà. Donc, mais ça, petit à petit, il faut le changer. C'est en train de changer pour moi. Et on est dans la bonne période pour le faire changer.
Oui, tout à fait. Ça évolue. On va préciser donc peut-être les sites web. Tout à l'heure, tu as parlé donc des chatons. Hein, ces structures qui proposent des services libres et éthiques. Donc, pour les retrouver, vous allez sur chatons, donc chatons.org. Donc, vous allez retrouver tout un groupe de structures, dont l'April et d'autres, qui proposent différents services. Tu as parlé du territoire numérique libre. Donc, je pensais en parler à la fin, mais on va en parler tout de suite. Donc, c'est un label qui permet, en fait, qui est donc donné notamment par la DULACT, qui est géré par la DULACT avec d'autres structures comme l'April, le Conseil national du logiciel libre, qui permet de valoriser les activités, les initiatives logicielles libres dans les collectivités. Donc, c'est un label de 1 à 5 niveaux, et donc Saint-Martin-du-Riage a pour l'instant le niveau 3 sur 5, et je précise donc que les collectivités peuvent candidaté pour l'édition 2020 du territoire, du label des territoires numérique libre jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit. Le site web, c'est territoire-numérique-libre.org, mais vous retrouvez évidemment les références sur causecommune.fm et sur april.org. Et juste, tu parlais des évolutions, juste une petite anecdote personnelle, je dois faire bientôt une téléconsultation avec un médecin et j'ai eu l'agréable surprise que le médecin me propose d'utiliser Jitsi Meet, donc un logiciel libre de visioconférence. Et on a reçu l'auteur, le créateur dans Libre à vous, donc j'étais très content que cette personne, avec les arguments de données personnelles, etc. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point perso. Donc là, il nous reste, je regarde, ouh là, le temps passe, il nous reste même pas 10 minutes. Donc on a vu les points essentiels qui ont expliqué les enjeux, en tout cas importants, sur la migration, les freins invoqués. Tu as parlé tout à l'heure en introduction d'avancer petit à petit dans cette migration vers le logiciel libre. Est-ce qu'on pourrait faire le focus maintenant sur peut-être un ou deux exemples dans les 7-8 minutes qui nous restent, justement sur ce qui a été mis en place depuis 2014?
Oui, alors, j'ai pris deux exemples assez différents, pour montrer que c'est pas gagnant à tous les coups, que j'explique toujours, mais c'est pas pour ça qu'il faut se désespérer et ne pas poursuivre. Donc il y a ce renouvellement du logiciel de gestion de l'urbanisme. Donc je vous ai dit, pour les nouveaux logiciels à mettre en place, là il n'y a pas de souci, on choisit du libre quand le libre existe, et donc là il n'y a pas eu de problème. Donc il y a eu gestion des élections, gestion du courrier, open demande, voilà, un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place parce que c'était des besoins nouveaux. Après, on s'est heurté justement au renouvellement des logiciels existants. Donc on était obligé aussi de renouveler par exemple notre logiciel de gestion des finances, donc là il n'y a pas eu photo, on n'avait pas d'alternative libre, on est parti dans le même logiciel propriétaire. Voilà. Et alors, pour la gestion de l'urbanisme, le problème s'est posé. Donc, on a fait une analyse vraiment des deux produits qui étaient en liste, c'est-à-dire celui qui était utilisé et puis qu'il fallait faire évoluer, donc qui était propriétaire, et puis OpenADS. Et donc, on a fait venir les prestataires, on a regardé, on a testé, bon, etc., avec la direction de l'urbanisme, avec le service de l'urbanisme. Et puis finalement, à la fin, le service de l'urbanisme a eu un petit peu peur d'aller vers de l'inconnu, et a préféré rester sur ce qu'il connaissait. Et là, on a laissé quand même, nous, le dernier mot, donc nous, les numériques, le numérique, on a laissé le dernier mot quand même à la direction, au service métier et à l'élu en charge de l'urbanisme. Et là, bon, on ne s'est pas battu contre ça. Donc, le logiciel de gestion d'urbanisme a été renouvelé, donc au niveau logiciel propriétaire. Par contre, c'est là où moi, je suis intervenue pour dire attention, parce que le système d'information géographique est complètement imbriqué dedans. Et à ce moment-là, il faut qu'on le sorte. Donc, on va en prendre un autre qui est libre, qui est QGIS, donc le logiciel QGIS. Et on va faire en sorte qu'il puisse communiquer avec ce nouveau logiciel de gestion d'urbanisme, mais en même temps qu'il puisse servir à d'autres services, que sont les services techniques ou les élus quand ils font des présentations dans cartographie, ou des choses comme ça. Et donc ça, on a travaillé là-dessus pour dissocier les deux. Et finalement essayer d'avoir justement un système d'information géographique libre, alors que ce n'était pas le cas jusque-là. Donc voilà, c'est là où je dis, il faut pas, on n'est pas gagnant à tous les coups, parce que il y a quelquefois des réticences métiers qu'il faut entendre et qui sont assez prégnantes. Par contre, voir comment on peut quand même en tirer parti.
Et avancer un petit peu, donc là, en l'occurrence, avec l'installation d'un système d'information géographique libre, qui est donc QGIS.
Voilà.
Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, pour terminer, tu voulais choisir quel exemple ?
Alors, l'exemple, c'est la migration vers la bureautique libre. Alors, celui-là, je l'ai gardé pour la fin du mandat, parce qu'en fait, il était inscrit dès le début du mandat, dans le planning, mais il y avait énormément de réticences, et puis il y avait toujours d'autres priorités. Donc, on a attendu de mettre en place quelques logiciels, de montrer que ça fonctionnait quand même, que c'était pas des uluberlus, bon, etc. Donc, petit à petit, on a acquis une confiance quand même de la part des services. Et puis donc, en 2019, Moi, j'ai demandé à vraiment qu'on fasse cette migration donc vers la bureautique libre. Alors, je l'ai inscrite dans le budget parce que on a demandé un accompagnement par un prestataire donc qui est OpenGo. Je le cite parce que c'est on a vraiment été très contents. Donc, qui nous a accompagnés, mais essentiellement pour la conduite du changement, pas pour l'aspect technique, parce que l'aspect technique dans la migration vers la bureautique libre, c'est 20%. Par contre, c'est 80% d'accompagnement des agents et de conduite du changement. Donc, j'ai pu l'inscrire dans le budget, budget 2019, et on l'a démarré donc en 2019 avec, alors on s'est aperçu très rapidement qu'en fait les agents allaient être gagnants là-dedans, d'abord parce que ils n'avaient plus de formation au traitement de texte depuis longtemps, donc ils ne savaient plus trop comment l'utiliser, et ça nous faisait beaucoup d'incidents au niveau de l'assistance informatique. Beaucoup de questions sur les logiciels de traitement de texte en particulier. Donc on s'est dit qu'on allait faire de la formation et qu'il serait forcément gagnant. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas de modèle de document donc formalisé. Donc on allait profiter pour en faire. Donc dans ce projet de migration vers la bureautique libre, on a mis à la fois présentation politique et technique de ce projet-là, formation, accompagnement spécifique pour ceux qui avaient des difficultés à migrer leurs propres données. Donc on a fait intervenir le prestataire dans des services, par exemple le service de la police qui avait beaucoup de données au niveau point doc, voilà. Et puis l'élaboration des modèles. Et tout ça, et donc on a fait des formations, on a formé tous les agents par groupe de 10 en les mélangeant, et ça a été très très bien apprécié parce que c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à penser que l'informatique c'est intuitif et que c'est acquis une fois pour toutes et qu'après on n'a plus besoin de former ou d'accompagner les agents. Et en fait, les agents, eh ben, on s'aperçoit qu'au quotidien, ils perdent beaucoup de temps avec l'outil informatique, soit parce qu'ils ne savent pas faire, soit parce qu'ils débrouillent comme ils peuvent, etc. Et donc ça a été vraiment l'occasion de former les agents, qui d'ailleurs en redemandent aujourd'hui, ils nous demandent des formations de perfectionnement, en particulier sur calque, ou voilà. Et donc on va continuer. Mais ça, c'est... Là, on est en train d'évaluer parce que donc le projet, il a connu un petit peu de retard et de coupure à cause de la crise sanitaire.
Oui, bien sûr.
Mais là, on va le terminer donc fin 2020 et on va faire une évaluation de ce projet-là. Mais il y a vraiment un retour très très positif de la part des agents. Et donc ce qu'on attend maintenant, c'est le moment où on va enlever complètement les outils de Microsoft pour qu'il n'y ait plus que les outils de LibreOffice sur les postes de travail.
D'accord. Bah écoute, à cette occasion-là, on reviendra vers toi pour refaire un point. On va juste préciser donc que le prestataire, la société prestatrice pour le conduit du changement, donc c'est OpenGo, donc opengo.fr de Marie-Jo Cop-Castinel, si je n'écorche pas son nom. Il est toujours intéressant de citer les prestataires qui font bien leur travail dans le monde du logiciel libre. Claudine, en moins de 2 minutes, parce que là, on arrive à la fin de notre sujet, est-ce que tu pourrais nous donner les éléments clés à retenir, voilà, en moins de 2 minutes de cet échange?
Eh ben, alors donc, c'est le triptyque élu DGS-RSI. Ça, c'est vraiment important pour asseoir une vraie politique, une vraie stratégie. Et puis, de se dire qu'il faut voir loin, il faut avoir une cible qui est ambitieuse, et puis avancer petit à petit, avec des allées, avec des retours peut-être en arrière, mais on avance petit à petit. Et puis se dire que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un tiers des communes qui utilisent des logiciels libres, qui utilisent comme ça au quotidien. Mais il faut aller plus loin, c'est à la portée de tout le monde, il faut s'appuyer sur l'écosystème du libre, il faut discuter avec les autres communes, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde, et il faut oser y aller, quoi.
Bah écoute, ça fait très plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, peut-être avec justement le fameux informaticien qui s'est dû se former au Libre. En tout cas, voilà, nous étions donc avec Claudine Chassagne, qui est adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage, donc en Isère, en charge entre autres du numérique. Je rappelle que les collectivités peuvent peuvent candidater au label Territoire numérique libre jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit pour valoriser leurs actions logicielles libres. Je rappelle qu'il y a 3 niveaux, il y a 5 niveaux de label et ça permet aussi de voir les évolutions. Écoute, je te remercie. Je te précise que les commentaires sur le salon web de la radio sont particulièrement élogieux pour les propos que tu as tenus. Et je tiens aussi à te remercier personnellement parce que c'est sans doute la préparation la plus facile qu'il y a eu pour l'émission Sujet Long. C'est assez rare d'avoir une telle qualité de préparation par les personnes invitées. En tout cas, tu as été celle qui a été le plus loin dans la préparation. Donc, je t'en remercie. J'aurai grand plaisir à te revoir à nouveau au téléphone pour parler de logiciels libres et aussi de données publiques parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait aussi partie des choix politiques de la ville.
Est-ce que je peux juste compléter en disant que tout ça est dans un dossier qui est en cours de publication?
Ah oui, vas-y, j'allais oublier justement. Vas-y.
Aux éditions territoriales et qui va paraître à l'automne, là. Voilà.
Donc effectivement, les collectivités, les éditions territoriales, hein, c'est territorial.fr, c'est en gros c'est la maison d'édition des collectivités territoriales. Donc Claudine a rédigé un dossier qui donc va paraître bientôt, justement relatant ce retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Écoute, Claudine, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt.
Merci.
On va passer une pause musicale. Alors on va continuer et terminer notre voyage au Japon par mon morceau préféré des 3 morceaux aujourd'hui de l'artiste Péritune. Nous allons écouter Sakuya 2. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you.
bien pour terminer ce voyage au Japon, nous venons d'écouter Sakuya 2 par Peritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Je rappelle que les choix musicaux sont le fait de notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet. Et c'est le grand retour de Jean-Christophe car c'est sa première chronique de l'année 2020, le coquin. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Toutes, je suis ravi de revenir dans Libre à vous pour cette chronique mensuelle à nouveau, donc à partir d'aujourd'hui, Pépite Libre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Césamat. Césamat est une association qui publie des manuels scolaires et des ressources pédagogiques sous licence libre pour l'enseignement des mathématiques. Ses valeurs sont la solidarité, le respect, l'ouverture. Césamat vient de Sésame, maths, et le partage. Elle se définit comme une communauté de professeurs de mathématiques prêts à imaginer, à concevoir, à échanger, à critiquer et à créer ensemble. Elle considère les ressources éducatives qu'elle génère comme des biens communs qui peuvent servir à tous. Toutes les ressources conçues par Césamat sont mises à disposition librement et gratuitement sur le site web de l'association. Elles peuvent ainsi être copiées, réutilisées par tout un chacun, que ce soit les acteurs de la communauté éducative, des associations ou entreprises, les élèves et leurs familles. Les enseignants et formateurs trouveront l'ensemble de ces ressources dans des formats modifiables, ce qui leur permettra de les adapter aux besoins de leur public. La méthode collaborative mise en œuvre par les contributeurs de Césamat en fait une œuvre collective. C'est-à-dire que l'association est l'auteur des ressources qu'elle crée grâce à ses contributeurs. Dans le code de la propriété intellectuelle, on retrouve cette définition. Édite collective, l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Détenir le droit patrimonial sur ces productions permet donc à l'association Césamat de les partager sous licence libre. On retrouve sur la page expliquant le choix des licences, en l'occurrence la GNU FDL, Free Documentation License, et la Creative Commons by SA. Un visuel de l'April encourageant à diffuser ces documents sous licence libre. Le choix du copyleft implique que les réutilisateurs doivent non seulement citer l'auteur, mais aussi garder la même licence lorsqu'ils partagent à leur tour des versions modifiées de ces ressources. Il n'est pas nécessaire d'être membre de Césamat pour participer à ce processus de création, mais il faut accepter de travailler sous licence libre et dans un certain état d'esprit fondé sur le respect des opinions d'autrui. Césamat ne promeut par ailleurs aucune pédagogie ou approche didactique particulière. Césamat met en place des partenariats avec des éditeurs tels que Génération 5, Reds ou Magnard, qui impriment des manuels papier et en assurent la diffusion et la commercialisation. Cette démarche me semble particulièrement exemplaire. En effet, Césamat prouve par la pratique que le photocopiage ne tue pas le livre. Les fruits du travail de Césamat sont très concrets. J'ai pu le constater moi-même en tant que parent lorsque mes enfants étaient au collège. Il était par exemple très pratique de pouvoir accéder librement au support de cours en ligne, les manuels imprimés étant réservés à l'utilisation en classe pour éviter les transports sur les dos des enfants et les oublis. On peut donc dire que le libre allège les cartables tout en garantissant aux élèves d'avoir toujours sous la main leurs outils de travail. Il existe d'autres initiatives de mutualisation de ressources pédagogiques grâce aux licences libres. Citons par exemple le site école.edulibre.org, conçu par Daniel Caillibeau et animé par deux membres de l'April, Cyril Dargillier et Arnaud Champollion. Ces enseignants partagent leurs documents en français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, technologie, TIF, art visuel, musique, langue et même EPS pour l'école élémentaire, c'est-à-dire de la petite section de maternelle au CM2. Il me semble urgent de faire connaître plus largement ces généreuses initiatives pour bouter hors de l'école les manuels numériques truffés de DRM, ces menottes numériques qui mettent sous clé les savoirs que l'école est censée transmettre à tous sans discrimination.
Ben, merci Jean-Christophe. J'ai deux questions à te relayer, deux questions de Marie-Odile Morandi. La première, c'est comment faire en sorte que les enseignants d'autres disciplines adoptent les mêmes solutions que ces AMAT ?
Alors, on peut peut-être d'abord se poser la question pourquoi les premiers à avoir fait ça sont les enseignants de mathématiques. Moi, j'y vois au moins deux éléments de réponse. Le premier, ça ne me paraît pas être un stéréotype. Je pense que c'est une réalité, c'est que les enseignants de maths sont peut-être plus familiers, plus à l'aise avec les technologies informatiques qui sont utilisées pour l'édition collaborative de ces ressources. Et le deuxième élément qui me vient à l'esprit, pourquoi les maths, c'est que l'avantage des maths, c'est que toutes les ressources qui composent les programmes, les théorèmes de maths, ben, sont de libre parcours. On ne peut pas breveter les théorèmes de mathématiques. Les théorèmes de Thalès et de Pythagore sont libres. Et donc, il est très facile de les documenter, de les expliquer dans un manuel sous licence libre. C'est complètement différent si on veut faire un manuel de français ou un manuel d'histoire-géographie. Pour le programme d'histoire contemporaine, on va être bien embêté parce que toutes les ressources documentaires qu'on va vouloir utiliser, eh bien, sont protégées par le droit d'auteur. Et donc les compiler dans un manuel sous licence libre ne sera pas possible. Ceci dit, comme je le citais à la fin de ma chronique, il y a des enseignants aujourd'hui qui font cette démarche dans d'autres disciplines. Et on trouve par exemple sur le site école.edulibre.org que j'évoquais des livres, des ouvrages de littérature pour enfants sous licence libre et donc utilisables dans le cadre scolaire et au-delà. Mais voilà, ça nécessite du coup une démarche d'écriture à part entière, parce que bien, si on veut utiliser les grands classiques de la littérature, on est gêné par le fait que ces ouvrages sont protégés par le droit d'auteur, et cela 70 ans après la mort de l'auteur. Donc autant dire que une grande partie, la quasi-totalité de la littérature étudiée dans les programmes scolaires et du coup inutilisable sous licence libre. Après, comment convaincre des enseignants d'autres...
C'était la deuxième question, vas-y.
Pardon.
Non, c'était justement la deuxième question de Marie-Odile, mais en une minute, donc comment les convaincre?
Voilà, comment convaincre ces enseignants? Je pense qu'il faut vraiment argumenter sur les vertus des licences libres, les vertus de partage, les vertus de mutualisation. Voilà, dans le cadre de ces AMAT, l'enseignant qui a fait le chapitre sur Thalès, grâce à la contribution de ses collègues, il a Pythagore et il a tout le reste du programme et les quatre niveaux du collège. Voilà, il y a cet aspect mutualisation. Et c'est vrai que dans le monde enseignant, il y a encore une grosse crainte par rapport à l'utilisation commerciale des ressources qui seraient libérées. Je pense que les manuels Césamat montrent qu'en fait, l'utilisation commerciale des manuels, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est un atout parce que ça permet une meilleure diffusion de ces manuels. Ça rend service aux élèves, aux enseignants, aux familles auxquelles sont destinés ces manuels. Et donc, je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est faire connaître les licences libres et leurs vertus de diffusion, de partage des savoirs le plus largement possible au sein de la communauté éducative.
Ben écoute, merci Jean-Christophe. Donc c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet. On va juste indiquer comme le site de Césamat, hein, c'est césamat.net. Ben Jean-Christophe, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve le mois prochain.
Ça marche, merci. Bonne fin de journée à tous.
Au revoir.
Et à toutes.
Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, annonce rapide parce que la fin de l'émission approche. Déjà, la réponse au quiz, je vous disais en question, le groupe de travail sensibilisation de l'April se réunit actuellement à distance chaque jeudi soir. La question, c'est quel outil libre de visioconférence est utilisé? La réponse, c'est Jitsi Meet, dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs à titre personnel, et le site qui est utilisé en l'occurrence est visio.chapril.org, Chapril étant la contribution de l'April au collectif chaton dont on a parlé dans le sujet précédent. Donc n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez utiliser librement cet outil et les autres outils proposés par le Chapril, donc je rappelle chapril.org. Et la prochaine réunion du groupe de travail sensibilisation, c'est justement ce jeudi 24 septembre 2020 à partir de 18h30 à distance, donc n'hésitez pas à participer. Dans les annonces, Etalab, une structure de l'État, lance une enquête sur les pratiques de publication du code source du secteur public. Ce questionnaire vous prendra 5 à 15 minutes, donc n'hésitez pas à le remplir, à le diffuser auprès du secteur public. Donc toutes les références sont sur le site de l'April et sur causecommune.fm. Vous avez un certain nombre d'événements qui sont annoncés sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Je rappelle également que la radio dispose d'un répondeur, donc vous pouvez réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, le numéro du répondeur, c'est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et voilà pour les annonces. Je vérifie, non, j'ai tout fait. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Noémie Berger, Claudine Chassagne, Jean-Christophe Becquet, aux manettes de la régie aujourd'hui pour son retour, Patrick Creusot. Ça s'est bien passé, Patrick ?
Très très bien.
On rigole parce que bon, la prise d'antenne juste avant était, on a eu quelques soucis, mais tout s'est très bien passé. Je remercie également l'équipe qui traite les podcasts, Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert, Olivier Grieco et le découpeur de podcasts, enfin les découpeurs de podcasts, Quentin Gibault et Christian-Pierre Maumont, qui vous permettent d'avoir des podcasts de qualité pour l'émission entière et également par sujet. Vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. N'hésitez pas à faire vos remarques et questions, elles sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal, 29 septembre 2020, notre sujet principal portera sur le thème du logiciel libre et de la santé et on parlera notamment du Health Data Hub, la plateforme des données de santé. L'émission sera animée par mon collègue Étienne Gonu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.